pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles, mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'aspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Et quoi de mieux que les mots de Grand Corps Malade pour commencer ce plateau mortel. On est dans la cour du centre social La Paz à Saint-Jean-en-Royans. Et d'abord le centre social que je remercie pour nous mettre à disposition cet espace. Et voilà, c'est une occasion de sortir le studio mobile de Radio Royan. Ça annonce un peu la saison estivale parce qu'on aime bien faire ça, se mettre là où on peut, dans les événements, dans les lieux, pour avec notre matériel. Avec Jean-Claude, bénévole à la technique, l'homme de l'ombre caché derrière le poteau et le kakémono Radio Royan. Merci Jean-Claude d'être avec nous. Merci public nombreux et nombreuses. Alors, c'est radiophonique, on ne vous voit pas, mais vous êtes au moins 500. Et aussi, merci à mes invités, Claire et Mbalou, qui ont accepté mon invitation quand le printemps mortel s'est mis en place avec la directrice du centre social, Séverine. Je lui ai proposé cette idée d'apéro radio. Et je lui ai dit, quand même, la question de l'artistique, c'est important. Et puis moi, je connais des artistes sur le territoire, elles travaillent sur la mort, dans leur travail de spectacle vivant. Est-ce qu'on ferait ça? Et puis elle m'a laissé un peu carte blanche. Et j'ai proposé à Claire et Mbalou de se joindre à moi pour cette histoire. Et je vous laisse vous présenter à tour de rôle un peu ce que vous avez envie de dire au public et puis aux auditeurs, auditrices qui écouteront en replay votre parcours artistique, qui vous êtes, peut-être une anecdote de l'arrivée dans le Royan ou quelque chose que vous avez envie de dire sur vous. Et puis après, petit à petit, on rentrera un peu dans ce plateau qu'on a appelé La mort, une matière artistique comme une autre. Point d'interrogation. Je ne sais pas si on aura la réponse à la fin, mais en tout cas, on va continuer à se poser des questions. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Mbalou, allez. Claire, respire et on y va.
Non, je peux y aller. Moi, c'est Mbalou. Je suis comédienne, metteur en scène et autrice. Enfin, en tout cas, j'écris mes propres spectacles. Et alors là, là, je suis un peu là au nom de la compagnie La Pigeonnière, qui est une compagnie que je co-dirige avec une autre artiste qui s'appelle Blanche Tircio, qui n'est pas là aujourd'hui, et avec qui on est vraiment les deux parties d'un seul cerveau, dans la mesure où on fait toutes les deux tout, donc la mise en scène, l'écriture, le jeu, donc on se met d'accord sur tout. Donc avec cette compagnie La Pigeonnière, on fait des créations in situ, donc c'est des créations qui s'inspirent des lieux dans lesquels elles ont lieu, donc qui sont plutôt hors les murs, généralement à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans des lieux non dédiés, des anciennes usines, des friches, etc. Et souvent, c'est des créations qui sont participatives, c'est-à-dire qu'elles impliquent des habitants, habitantes, ou commerçants, commerçantes, ou des ateliers artistiques locaux, et immersives. C'est-à-dire que le public est invité d'une manière ou d'une autre à rentrer dans la fiction, soit en ayant un rôle à y jouer, soit en ayant une immersion sonore. Enfin voilà, on a plein de projets qu'on met en œuvre différentes choses de ces dimensions in situ et immersives. Et là, avec cette compagnie, on est en travail sur un spectacle qui s'appelle Apparition, qui traite de notre relation avec les défunts. Donc, c'est pour ça que je suis là, je pense. Mais par ailleurs, je suis plus connue, entre énormes guillemets, dans le Royaume pour un travail avec une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie En Cavale, avec laquelle je suis arrivée dans le Royaume en roulotte, à cheval. Donc c'est vraiment un tout autre type de travail. Et pour l'instant, la Pigeonnière n'a jamais mis les pieds dans le Royaume, mais j'espère qu'on aura l'occasion de venir... devenir aussi. Voilà.
Ben, merci. Et Claire, et toi, qui es-tu ?
Alors, moi, je suis Claire Villard. Je suis comédienne clown depuis, je ne sais plus exactement depuis combien de temps, depuis peut-être 8 ans. Et je suis régisseuse lumière pour plusieurs compagnies depuis maintenant, ça va faire 18 ans, je crois. Et voilà. Et jusqu'à maintenant, je n'avais jamais monté de projet qui soit monté par moi-même, quoi. Et ça fait un moment que j'avais envie. Et à un moment donné, j'ai été attirée par cette thématique autour de la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer une compagnie qui s'appelle Le Cri du Caillou. Et petit à petit, il y a plein de gens qui se sont ajoutés dans la compagnie. Il y a Charlotte Mignot, Aro Choran qui est là. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Marie Jagoda. On a aussi Sylvia Dotti et Marine Pontu en coprésidente. Et voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est de monter deux projets autour de la mort, une kermesse mortelle avec d'autres personnes encore. On est 7 sur ce projet. Et donc là, je suis sur un projet d'écriture d'un spectacle en déambulation en extérieur qui, pour l'instant, le titre provisoire s'appelle « Le bruissement du dehors ». Et qui sera donc avec moi en comédienne et une musicienne, Chloé Serme-Morin, qui sortirait en 2028. Donc pas tout de suite, mais je suis déjà sur l'écriture du spectacle.
Et c'est vrai que la mort, alors dans le cadre du Printemps mortel, on traite cette question de la mort. Mais quand on dit la mort, ça peut être le deuil, ça peut être qu'est-ce qu'on fait avec nos morts et nos mortes, comment nous, en tant que vivants et vivantes, on vit ça. Et que ça peut faire un peu peur selon... même là, en envoyant par exemple l'invitation pour le plateau, je sens qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, pas du tout. Merci, mais non merci. » Donc on sent que cette question, c'est aussi... Là, dans le Printemps mortel, c'est aussi une manière de la mettre dans l'espace public, de réfléchir avec tout ça, de s'en saisir aussi, pour pas être démunis dans certains moments. Et le spectacle vivant, c'est aussi ça que ça propose. Et du coup, moi, une des premières questions que je voulais vous poser, c'était pourquoi créer un spectacle sur la mort ? Comment vous est venue cette idée-là ? Parce que, comme vous venez de le dire, vous avez d'autres expériences artistiques avec d'autres thématiques, autant sur le bruissement du dehors que sur Apparition. Quel était l'élan premier, la genèse de cette création-là ?
Moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Il est mort tranquillement, il avait 88 ans, donc il est mort tranquillement à un âge bien avancé en ayant déjà fait beaucoup de choses dans sa vie. Et évidemment j'ai été triste, mais je m'attendais vraiment à être effondrée et j'ai réalisé que pas tant que ça, enfin que ça me nourrissait sur plein d'autres plans, sur plein d'autres choses. Et j'ai commencé à en parler autour de moi à plein de gens, en discutant de ça, de la mort, du deuil. Et ça a ouvert des discussions incroyables avec beaucoup de monde, avec des gens avec qui j'étais pas forcément toujours très proche, mais en discutant de la mort et du deuil, je sais pas, on arrive au, je sais pas comment dire, mais à l'essence même de la vie, de ce que ça raconte, de qui on est et tout ça. Et j'ai réalisé à quel point c'était primordial d'en parler, et qu'on en parlait très très peu et qu'il y avait vraiment besoin d'en parler. Et voilà. Et du coup, j'ai eu envie de m'en emparer d'une manière plus artistique et d'essayer de réfléchir à comment monter un spectacle autour du deuil. Et une question qui m'a particulièrement interpellée, c'était de me dire comment font les gens qui perdent un proche trop tôt ? Enfin, justement, pas quelqu'un qui est en fin de vie après avoir mené une belle vie, mais quelqu'un qui meurt trop tôt par rapport à ce qu'on aurait voulu, on va dire. Et comment les gens peuvent arriver à continuer à vivre et rebondir après ça. Voilà.
C'était ça l'impulsion de départ pour toi. Ouais. Mmh. Okay. Et toi, Mbalou ?
Et bah, nous, en fait, c'est pas tellement. On n'a pas eu cette idée au préalable. C'est plutôt une idée qui est venue. Enfin, en tout cas, une nécessité qui est venue. En étant en création, on avait reçu une commande donc en 2018 d'un festival de création en espace public qui nous commandait un parcours théâtral dans l'espace public, vu que c'est ça qu'on fait. Et on était comme ça un peu en train de brainstormer avec Blanche sur voilà, on aimerait bien embarquer les gens, leur faire croire à une fausse piste, mais qu'en fait ce serait autre chose, mais en fait on ne sait pas quoi. Et alors il y a eu un peu un espèce de petit miracle comme ça. De cohésion où on a dit en même temps toutes les deux et en fait on irait au cimetière et en fait c'était évidemment pas du tout anodin. Moi je venais de perdre je pense 2 semaines avant la mère d'un ami qui avait beaucoup compté pour moi et qui était aussi la personne qui m'avait mis au théâtre, donc je pense que sans m'en rendre compte ça me trottait. Blanche avait perdu sa meilleure amie qui s'était suicidée 2 ans auparavant, et donc je pense qu'on a eu un peu ce truc où ça nous est venu aussi d'un coup, je pense, très inconsciemment, mais un peu ce truc de, ben c'est des choses dont on ne peut pas tellement parler, où on n'a pas l'impression de tellement pouvoir en parler autour de nous, et donc là on a un peu carte blanche, on peut un peu emmener du public là où on veut, et ben on va les amener au cimetière parce que c'est quelque part où on ne va pas sinon, et où on n'ose pas dire aux copains, aux copaines, venez dimanche, on va au cimetière sur la tombe de Mathilde ou quoi au caisse. Et donc je sais pas, ça c'est une interprétation que je fais a posteriori, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué. Et du coup, on a créé cette forme qui était du coup un one shot. On a travaillé 2 semaines et là, il s'est passé deux choses. Il y a eu une chose qui est que finalement, l'accès au cimetière, qui était donc un peu le point d'arrivée très importante de cette forme, nous a été refusée 2 jours avant. Donc on avait l'autorisation, on attendait juste d'avoir les clés du cimetière, et finalement 2 jours avant, le bourgmestre, donc c'était en Belgique, donc c'est l'équivalent du maire, a décidé de nous retirer l'autorisation parce qu'il y a un tabou énorme sur faire de la vie dans un espace mortuaire, quoi, dans un cimetière. Donc finalement, on a fini le spectacle aux portes du cimetière, et ça nous a questionné sur cette chose-là, sur en fait quel mur on construit entre le monde des vivants et le monde des morts. Et l'autre chose qui nous a flashé, c'est un peu ce que disait Claire, c'est que ça, en fait, ça a suscité plein de réactions et de discussions hyper intéressantes avec les gens qui ont vu ce spectacle. Je pense au-delà de ce que nous on imaginait. En fait, ça s'est vraiment venu ouvrir un pan de partage qu'on a en fait continué après tout du long. Donc ça, c'était en 2018, et là. Depuis, on passe notre temps à parler de ça, à rechercher sur ça. Blanche, par ailleurs, a plusieurs projets autour du rituel funéraire. Et donc ça a continué à nous occuper. Et on s'est toujours dit, on aimerait bien continuer ce projet, faire un spectacle. Sauf qu'à l'époque, on a essayé et ça n'a pas du tout marché. Je pense pour 2 raisons. Il y avait qu'on était une compagnie plus jeune. Et donc, comme c'est un sujet qui est compliqué, les gens n'avaient pas forcément confiance en nous sur le fait de le traiter, mais aussi c'était avant le Covid, et en fait on s'est vraiment rendu compte qu'après le Covid, ça a été beaucoup plus simple de proposer à des partenaires de dire on voudrait faire un spectacle sur le deuil, est-ce que ça vous intéresse, et là on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens intéressés, donc c'est ça qui nous a relancé là maintenant pour cette nouvelle création qui sortira en 2026.
Et chacune, quand vous dites que vous travaillez sur la mort dans vos créations actuelles, pas celle passée mais actuelle, c'est quoi un peu les réactions des personnes justement? Alors on est post-Covid, effectivement, c'était il y a 5 ans. Comment réagissent les gens?
Ça dépend vraiment. Il y a un peu les deux extrêmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des gens qui sont super enthousiastes parce que justement, il y a un truc de, en fait, on n'en parle jamais. Et du coup, je pense pour des personnes notamment qui sont en train de vivre des deuils, le fait de se savoir qu'il y a des gens qui prennent ce sujet-là et qui veulent en parler, ça suscite de l'enthousiasme. Et puis après, c'est vrai qu'à l'inverse, il y a aussi un peu la crainte du trauma, du fait qu'en parler, ça ravive des choses. Moi, j'ai eu ça. Là, je donnais un atelier à des ados il y a deux semaines. Et en fait, il y en a une qui n'est pas venue parce qu'elle avait peur que ça soit trop, parce que c'était l'anniversaire de la mort de son père. Et en fait, ce qui est tout à fait entendable, mais... Et du coup, il y a eu un peu ces réactions des ados après qui ont dit « Ah, mais en fait, ce serait chouette qu'elle aurait pu venir. En fait, c'était rigolo. » Enfin, donc voilà, il y a un peu les réactions de peur, de « je préfère me mettre à distance. » Et du point de vue plutôt professionnel, en tout cas dans le secteur culturel, je sens qu'il y a un peu une réaction de « Ok, mais est-ce que ça va être hyper glauque ou pas ?» Et donc, moi, je sens qu'on a un peu une... On est un peu obligé de tout le temps dire non, mais ça va aller. Ça, c'est pas juste être horrible. En fait, c'est un sujet qui est intéressant par ailleurs, qui parle aux gens par ailleurs, même qui n'est pas juste traumatisant.
Il faut rassurer à la fois les programmateurs, programmatrices de salles et le public.
Et le public
en disant ça ne va pas être glauque. Mais comme sur le Printemps Mortel, finalement, de dire on travaille sur la mort, mais ça va aller.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Claire ?
Ouais, il y a souvent des réactions un peu de « Ah, ok, bon, trop bizarre. » Enfin, ouais, un peu, c'est bizarre. Enfin, je sens que c'est un truc, c'est bizarre de vouloir parler de la mort et c'est pas, clairement, c'est pas réjouissant, quoi. Donc, ça emballe pas toujours. Après, des fois, justement, ça ouvre des discussions et ça offre, des moments de parole et d'échanges qui sont super intéressants. Et auprès des professionnels, je dirais que plutôt qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui parlent de la mort, qui ont des spectacles autour de ça. Et du coup, auprès des professionnels, à chaque fois, je me heurte à « Ah, bah, comme tout le monde en ce moment, tu parles de la mort. » Et alors que moi, c'est un sujet qui me travaille énormément et que j'ai envie de pousser à fond. Et du coup, bon, je me dis « Bon, en même temps, pour moi, ça me paraît être le moment, donc j'y vais. » Mais voilà, c'est aussi un moment où tout le monde parle de ça, quoi.
Mais toi, ça te freine ou ça, tu te dis, ça te met des bâtons dans les roues, ce type de réaction, genre, ah oui, d'accord, tu fais comme tout le monde, c'est la mode, quoi.
Bah oui, je me dis, mince, parce qu'après, évidemment, on a des spectacles, on a envie qu'ils soient diffusés, qu'ils soient vus, et du coup, s'il y a déjà 150 spectacles qui parlent de la mort, bah, ça rend d'autant plus difficile à diffuser un spectacle. Et donc, disons que stratégiquement, c'est peut-être pas une très bonne stratégie, mais je me dis que en tout cas, moi, qu'on fonctionne comme ça, c'est qu'il faut que je fonctionne avec mes tripes, et c'est ce que j'ai en ce moment dans les tripes.
Et pour continuer, je me demandais, est-ce que vous, donc là, vous n'êtes pas toutes les deux au même stade de création, Balou, toi, t'es plus avancée, combien de temps ça fait que t'es dessus ?
Du coup, ça fait depuis 2018, entre gros guillemets, mais en tout cas, là, on a repris la création en décembre 24, donc il y a 6 mois, un peu moins. Et on a 10 semaines de résidence et on en a fait 4. Donc voilà, on est
bien dedans, quoi.
Ouais. À la fin du gros premier tiers, quoi.
Et toi, Claire, c'est ce que tu disais, c'est prévu pour 2028.
Ouais, donc c'est prévu pour 2028. Là, ça fait un an. Alors, faut savoir que nous, on a fait pas mal avec notamment Charlotte Mignot, qui est là derrière, qui se cache.
Présente.
On a fait pas mal d'entretiens audio avec différentes personnes, des entretiens de 1h30, 2h. Et du coup, on a commencé ça l'année dernière. J'ai aussi beaucoup lu, beaucoup écouté de choses et tout ça. Là, cette année, je suis dans la phase d'écriture du spectacle, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour ça, d'ailleurs, je me fais accompagner par Charlotte Meurice, qui est auteure et metteur en scène de la compagnie, entre autres la compagnie Tout en Vrac, et du coup qui m'épaule là, sur l'écriture. Et du coup, l'année prochaine, on va faire 3 résidences avec la musicienne pour travailler l'écriture et la musique, parce que les deux vont être énormément mêlés. Et là, il va y avoir un gros travail de sonore autour d'une bande son et tout ça. Donc ça va être très imbriqué. C'est pour ça qu'on fait 3 semaines là-dessus. Et ensuite, il y aura 2027 et 2028 où à chaque fois, il y aura 4 semaines de résidence pour travailler aussi le travail dans l'espace public en déambulation qui demande un travail particulier et notamment un travail important avec le public. On joue vraiment avec le déplacement des gens et tout ça. Et du coup, voilà. Et puis comme c'est mon premier spectacle et que le sujet n'est pas simple, j'ai besoin de temps dessus pour travailler.
Et du coup, je voulais vous demander à toutes les deux, qu'est-ce que le fait de travailler sur cette matière-là implique dans votre rapport intime, dans vos histoires personnelles, puisque la mort, c'est avant tout une histoire d'intimité, de singularité, même si c'est une matière qui est universelle, une thématique universelle. Comment ça implique vos rapports intimes avec ça? Comment vous arrivez à vous préparer à ce travail-là, quoi, puisque j'imagine que plonger dedans, voilà, lire, regarder, enfin, écouter des podcasts, regarder des séries, bon, voilà, ça fait que la matière, elle est quand même présente pas mal. Comment ça marche avec vos histoires personnelles et vos rapports, comment votre rapport à la mort évolue, en fait?
C'est sûr que c'est un gros enjeu de ce travail, de voir, de faire la part des choses entre le travail professionnel, le travail intime, parce que c'est aussi un travail, le rapport au deuil. Moi, je pense que dès le début, il y a eu quelque chose d'assez fort qui est que, donc, comme je disais, la première impulse, c'était venu pour moi, en tout cas intimement, de la mort d'une personne, de la mère d'un ami. Et donc j'avais un peu en tête aussi que je créais pour cet ami-là, pour lui dire en fait on peut dire des choses sur la mort qui soient pas que horribles. Et en fait cet ami-là s'est suicidé dans l'année qui a suivi. Et donc tout de suite je me suis dit en fait ok, alors est-ce que je continue dans cette boucle de je crée pour consoler les gens de en fait qui vont mourir. Enfin il y a quelque chose d'assez vertigineux en dehors du traumatisme et du deuil, mais dans aussi savoir qu'est-ce que moi ça me faisait et quel était mon moteur. Et donc je pense que pendant tout un temps j'ai été très distanciée par rapport à ça. Je me suis vraiment plongée dans cette matière un peu comme plutôt d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de me dire vraiment ça m'intéresse de savoir comment est-ce que les gens mettent en rituel les décès, etc., en distanciant totalement la partie émotionnelle. Et en fait, moi, ça m'a rattrapé à un endroit qui est qu'en fait, mon père est décédé à la fin de ma première semaine de résidence, là, de décembre. Et en fait, au cours de cette semaine, je pense, ça a été vraiment ce décès, il était prévisible, même si on pensait pas qu'il allait arriver comme ça ou à ce moment-là. Mais moi, pendant cette semaine-là, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté que c'était pour moi, vraiment intimement, d'être au travail, en fait, tout ce que ça me faisait jouer aussi, d'entendre des récits de pertes, alors que j'étais même moi-même en train de me préparer à une perte. Et en même temps, d'un point de vue très positif, ça m'a permis, pendant cette semaine de travail-là, d'avoir des espaces pour en parler, parce que justement, j'étais en plein dans cette matière-là, et donc, notamment, on organisait un café mortel, et c'est la première fois que j'ai dit, mais en fait, mon père va mourir. Je ne savais pas que ça allait arriver 4 jours après, mais en fait... je ne l'avais jamais dit avant. Et donc, il y a un espèce de truc un peu ambivalent entre la... Enfin, un peu comme ce qu'on disait par rapport aux gens de l'extérieur, c'est que des fois, j'ai l'impression que moi, j'ai à la fois peur de... Mais en fait, si je me connecte émotionnellement à ça, ça va être trop dur. Et à la fois, j'ai une reconnaissance de... En fait, le fait de travailler sur ça, ça me donne vraiment des espaces pour cet aspect-là de ma vie et ces émotions-là. Et voilà. Et alors après, ce que j'ai quand même fait... avant de démarrer la création, le dur de la création, c'est que j'ai contacté une nouvelle psy qui travaille sur les questions de deuil, en me disant qu'il y avait, en fait, c'était aussi un espace où il fallait être accompagné, parce que dans tous les cas, tu es confronté à des récits qui sont des récits de tristesse, de trauma, de pas que, mais en fait quand même beaucoup, et qui forcément te renvoient aussi à des peurs. Et voilà. Et donc, je suis très contente d'être accompagnée par quelqu'un là-dessus.
Ouais. Et puis aussi, en préparant ce plateau, on en parlait, le fait que finalement, à force de travailler dessus, t'es outillé, et que dans ta propre vie, finalement, ça t'a aussi servi. C'est aussi une richesse de travailler là-dessus. Et mine de rien, quand on travaille dessus, on devient aussi ressource pour d'autres qui se retrouvent confrontés à ça. On va avoir l'occasion d'en parler, puisqu'on va parler un peu de ressources à la fin, mais... Ça t'a aussi donné cette expertise-là?
Oui, à fond. Et ça m'a donné aussi plein de... Bah, du coup, comme j'ai dû organiser l'enterrement de mon père dans la semaine qui a suivi, en fait, l'air de rien, vu que ça fait 6 ans que je m'intéresse à ce sujet, j'avais accès à des pompes funèbres super chouettes. Je savais que j'avais le droit de faire... Qu'on avait le droit, en tant que famille, de s'approprier cette cérémonie. J'avais déjà réfléchi à beaucoup de choses. Et en fait, l'air de rien, c'est souvent ça qui est très compliqué. C'est comme c'est un tabou et qu'on n'en parle jamais, et que par contre, ça arrive à tout le monde, il y a forcément un moment où tu te retrouves confronté au truc. Et le fait d'en avoir, d'avoir eu accès à de l'information et à du témoignage avant, ça facilite quand même vraiment le fait de faire face, quoi.
Et toi, Claire, est-ce que tu veux répondre à cette question de comment ça impacte ton rapport à la mort, le fait de travailler dessus comme matière dans ton quotidien, quoi ?
Eh ben, bah, la même chose déjà, c'est qu'on est outillé. Effectivement, enfin, là, mon frère qui était gravement malade l'année dernière, à un moment donné, on a vraiment eu peur qu'il... Bref, qu'il y passe. Et que ça me rassurait de me dire « Ah bon, alors je sais qu'il y a telle pompe funèbre, il existe ça, c'est possible de faire ça, on va lui faire une cérémonie qui sera complètement folle, qui lui ressemble. » Donc il y a déjà ça qui est très important et c'est vraiment problématique qu'on n'ait pas tous accès à ça. Et sinon, bon, apparemment, bah, c'est quand même pas simple hein, de bosser sur ce sujet. Enfin, je me retrouve avec des dizaines de bouquins chez moi qui parlent de la mort. Bah alors, des moments, je me plonge dedans, mais c'est vrai que j'arrive pas à m'empiler 3 ou 4 bouquins d'affilée. Au bout d'un moment, ça plombe un peu quand même. Faut dire ce qui est. Tu passes tes soirées à regarder un documentaire sur la mort et à pleurer toutes les larmes de ton corps. Bon, voilà. C'est quand même. Faut arriver à trouver du recul aussi un petit peu avec tout ça. Même si c'est intéressant et passionnant, mais c'est quand même un sujet assez lourd, quoi.
Des espaces de distanciation, comme tu disais, Mbalou, soit thérapeutiques, soit au moins de mise à distance. Ouais. Ça peut aider peut-être entre artistes qui travaillaient là-dessus.
Ouais. Bah, après, je pense que dans tous les cas, c'est un peu quelque chose que tout le monde fait naturellement. C'est moi, on fait beaucoup de blagues sur la mort avec les gens qui m'entourent parce que justement, on parle de ça et à la fois, ça n'empêche pas qu'effectivement, là, cette semaine de résidence en décembre, on a regardé des films et on était là, mais en fait, c'est l'enfer, quoi. En plus, c'est l'hiver, il n'y a pas de lumière. On entend des mamans qui parlent de leur enfant mort. Moi, j'ai un enfant de 9 mois, j'ai tout sauf envie de ça. Et en même temps, bah, voilà, c'est aussi la vie, quoi. Enfin, bref.
Ce qui a quand même changé, c'est que du coup, la mort dans ma tête est présente au quotidien. Vous savez vraiment que tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je me dis, ah bah là en voiture, je peux mourir. Là, c'est peut-être la dernière fois que je vois cette personne. Et en fait, ça pourrait paraître glauque, mais en fait, c'est pas glauque parce que ça amène de la vie, ça amène l'urgence de la vie et l'urgence de se dire c'est quoi les priorités dans ma vie, là, tout de suite, maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête pour telle ou telle raison ? Ça n'empêche pas que je me prenne la tête pour sur des choses. Mais ça aide vraiment à se dire c'est quoi les priorités dans la vie et les priorités aussi de prendre soin des autres et d'être avec des gens qui nous tiennent à cœur et d'en profiter parce qu'on peut mourir à 25 ans, à 30 ans, à 3 ans. Enfin, tout est possible, quoi.
Oui, donc finalement, travailler sur la mort, c'est aussi renforcer la vie qui est là, quoi. Enfin, tant qu'on est en vie et que nos proches sont en vie. Vu qu'on est dans un plateau radio, on va faire une petite pause musicale. Et puis qu'on traite aussi de tout ça, donc on va faire une petite pause musicale. Le premier son qu'on a écouté, je vous disais, c'était Grand Corps Malade, c'était Nos Absents. Et moi, pour la petite histoire, si on est dans le dévoilement, c'est une chanson que j'ai passée quand on a fêté les 20 ans, je crois, de la mort de mon père, que j'ai choisi de passer en famille. Donc, on fait des rituels aux 10 ans, aux 20 ans, aux 25 ans. Enfin. Et du coup, j'avais proposé ça en écoute collective, comme là, on a fait, avec ma famille, parce que je me disais que ça incluait aussi les enfants de mes frères et sœurs, les neveux et nièces, là. Et du coup, ça a super bien marché, parce que ça a lancé la discussion sur on en est où dans nos deuils, comment on a fait vivre un peu la mémoire de mon père cette soirée-là. C'était un peu pour ça qu'on se réunissait, mais c'est aussi ça, vu qu'on n'était pas dans des rituels religieux. On a dû se réapproprier quelque chose en disant qu'est-ce qu'on y met nous, ok on a calé une date, on est dans la maison familiale mais qu'est-ce qu'on fait quoi, et du coup j'avais proposé ça et ça avait bien marché. Voilà, je vous donne un petit outil. Et du coup la deuxième pause musicale, c'est toi qui as choisi le son, Claire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors donc c'est la chanson Émilie Loiseau, Fais battre ton tambour. Je ne saurais pas dire, en tout cas c'est une chanson qui m'accompagne depuis plusieurs années et que je trouve vraiment très belle et qui me touche beaucoup au niveau de toutes les émotions que ça raconte autour de la perte de quelqu'un.
Mon ami est parti. Elle est partie pour toujours. Mais moi je suis en vie. Fais battre ton tambour, fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur. Que demain je danse encore. Et que je n'ai plus. Fais battre ton tambour, sonne tant tambour jusque dans mes pieds. Je sens les larmes qui montent, mais je vais pas pleurer. Je sens la peine qui gronde. Je vais la chanter comme un take my pain away. Come and take my pain. Battre ton tambour, fais-moi danser, qu'il sonne ton tambour jusque dans mes pieds. J'ai la gorge qui se serre, mais j'avais sans monter la colère, l'envie de crier. Je veux tordre le cou à ce mal qui me dévore. Je tape sur mon corps, je tape encore. Je sens les larmes qui coulent. Dans ma vie qui s'écroule, je vais la chanter comme un thème.
Fais battre ton tambour de Émilie Loiseau, une chanson qui était choisie donc par Claire. On est toujours en public au Centre Social La Paz dans le cadre du Printemps Mortel, voilà, sur ce plateau La Mort, une matière artistique comme une autre, organisée par Radio Royan avec Claire et Mbalou. Et pour continuer après cette chanson, j'avais envie de plonger un peu dans le concret de comment on monte un spectacle sur la mort, parce que bon, on pourrait se demander cette question pour toutes les thématiques, mais là particulièrement, il y a des phases de recherche, vous en avez parlé, de documentation, mais aussi de collecte de matériel de travail. On va avoir l'occasion d'ailleurs d'écouter plusieurs sons que vous avez ramenés sur vos phases de collecte. Mais voilà, comment on s'y prend concrètement dans vos résidences, comment vous travaillez? Dites-nous tout, l'envers du décor.
On a eu ce très long temps d'infusion de 6 ans où on a beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts, regardé de films. Donc on a beaucoup eu un peu une réflexion passive sur la question du deuil, du rituel. Mais là, depuis qu'on est vraiment activement dans le processus, en gros, la première étape qu'on a faite, ça a été de lancer une collecte de témoignages. Ça nous a beaucoup posé question de comment est-ce qu'on voulait recueillir ces témoignages, sachant que, en tout cas, nous, pour le spectacle, on avait vraiment envie de mettre en scène une relation intime d'une personne avec une défunte. Et donc, on se posait la question de comment est-ce qu'on pouvait réussir à recevoir des témoignages de l'ordre de cette intimité-là. Et on a senti que le mode de l'interview n'était pas forcément celui adapté à ce qu'on cherchait. Et donc on a proposé un petit protocole de collecte aux gens qui était de nous laisser des vocaux. Avec vraiment l'idée que à tout moment, en se réveillant le matin après un rêve ou quand quelque chose les traversait, ils pouvaient nous laisser un vocal pour nous le raconter. Pour nous, c'était un peu l'idée que justement ça puisse avoir lieu dans un espace complètement quotidien, complètement intime de la personne, qui n'est pas aussi ce truc de vouloir nous faire plaisir en nous donnant des informations que peut-être il ou elle n'avait pas envie de nous donner, en disant qu'avec le vocal, on est passé par WhatsApp, donc les gens pouvaient aussi les supprimer si finalement ce qu'ils avaient dit n'était pas, enfin s'ils n'avaient pas envie de partager ce qu'ils avaient dit. Et donc ça a été une très chouette matière pour nous parce que, enfin en fait, on y a eu ça et aller à des cafés mortels, ça a été un peu les deux endroits de réception de témoignages desquels on s'est pas inspiré de ça en tant que matière concrète dans le spectacle, c'est-à-dire qu'on reprend pas des bribes de ce qu'on nous a dit, mais par contre on a essayé un peu d'identifier. Nous, notre grande question, c'est quand est-ce que, à quel moment les morts t'apparaissent et qu'est-ce qu'ils te disent ou qu'est-ce qu'ils te font faire, quoi. Et donc, avec tous ces témoignages-là, on a commencé un peu à établir des pôles de choses qui reviennent. Donc, voilà, il y a des choses assez classiques du rêve, des moments d'anniversaire, etc. Et en gros, on a créé un peu des catégories de moments d'intervention des morts et des mortes dans nos vies. Et à partir de là, on a commencé ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui est passablement un challenge, mais construire une narration, donc construire une histoire concrète. Parce que du coup, dans notre idée, je vais pas en parler beaucoup parce qu'on a aussi, on joue beaucoup sur la surprise dans nos spectacles, donc je vais essayer de pas trop révéler. Mais en tout cas, on avait envie d'inviter le public à être voyeur d'une heure de la vie de quelqu'un, et que dans cette heure-là, il y ait des choses en lien avec une défunte et donc d'être vraiment voilà dans ce truc là de pouvoir un peu ce truc dont on a, enfin en tout cas nous on a avec Blanche, on s'est dit qu'on avait toujours rêvé de ça, quoi, le truc de qu'est-ce que c'était si pendant une heure je pouvais rentrer dans le cerveau et dans les yeux de quelqu'un, est-ce que je me rendrais compte que en fait c'est pareil que chez moi, ou est-ce que je me rendrais compte que je suis complètement folle que en fait mon monde à moi est complètement décalé par rapport au monde des autres. Et donc on est en train d'essayer de tisser cette narration là maintenant en s'inspirant de tout ce que de ces choses qui sont revenues dans tous les témoignages qu'on a collectés. Et là on entre dans la partie donc vraiment concrète de mettre en rue ce qu'on fait, parce que donc c'est comme pour Claire, c'est assez rigolo, mais en fait on est aussi en train de créer une déambulation dans l'espace public. Nous on crée avec des casques audio, donc donc voilà, le public va nous suivre et pouvoir entendre justement ce personnage dans l'intimité du casque. Il y avait vraiment cette idée de jouer sur le voyeurisme assez fort. Et donc là, on est en train de travailler sur des trucs très concrets, en fait, de comment est-ce qu'on se déplace dans une ville, comment est-ce qu'on peut réadapter ce parcours dans plein de villes et d'espaces différents. Comment est-ce qu'on a des modules qui peuvent se réadapter. Nous, l'idée, c'est à chaque fois d'arriver 2-3 jours avant pour pouvoir réécrire le parcours, ce qui est quelque chose qu'on fait déjà dans notre spectacle actuel. Mais avec l'idée que dans notre spectacle actuel, c'est vraiment un spectacle en module qu'on peut un peu mettre dans des ordres différents à chaque fois, alors que là, on a vraiment envie de tisser une histoire qui ait un début et une fin et qui soit très précise. Donc voilà, c'est des vraies questions de comment est-ce que tu adaptes ça à la réalité qui est très différente entre Saint-Jean-en-Royan et le 19e arrondissement de Paris, par exemple, si jamais on joue là-bas. Et donc, c'est aussi un peu un travail de collecte de qu'est-ce qu'il y a dans l'espace public, qu'est-ce qu'on va toujours retrouver, qu'est-ce qu'on ne va pas retrouver, qu'est-ce qu'on demande au lieu, comment est-ce qu'on dit, en fait, nous, il faut qu'on soit là. Et voilà. Et après, un travail d'impro, quoi, et d'essai, de tentative et de ratage.
Sacrée contrainte quand même, ouais. De travailler avec l'espace public. Et du coup, vous, votre prisme, c'est vraiment la question de la relation entre... parce que la mort, encore une fois, on disait, c'est le gros thème, mais après, on peut la saisir par plein d'angles. Et là, vous, c'est vraiment la relation avec la relation entre un vivant et une défunte, quoi. Ouais. Enfin, une vivante et un défunt.
Ouais, notre question initiale, c'était vraiment qu'est-ce qui reste vivant d'un ou d'une morte au sens très large, quoi. Alors, on peut le prendre Alors, on s'est inspiré, comme tout le monde, de Vinciane Després, qui parle de ça dans son livre Au bonheur des morts, qui est un super livre que je conseille à ceux et celles qui ne l'ont pas lu, et où je pense qu'elle résout quelque chose qui peut être compliqué, qui c'est un peu le « est-ce que tu crois ou pas en l'existence des morts après leur trépas ?» Et elle résout ça un peu en disant, en fait, dans tous les cas, que tu crois en la permanence de la vie ou pas, les morts ont une existence tangible, dans la mesure où ils te font agir d'une certaine manière, ils t'impactent d'une certaine manière. Et donc nous, on est vraiment allé chercher cet endroit-là de, en fait, qu'est-ce qui nous fait agir, qu'est-ce qu'un ou une morte peut nous faire faire, à quel moment est-ce qu'elle intervient dans notre vie, à quel moment elle nous apparaît.
Peu importe donc, comment on y croit.
Peu importe en fait la croyance qui est derrière, que ce soit qu'on croit aux fantômes ou que simplement en fait, on rêve de notre père décédé simplement parce qu'en fait il nous manque, ou que juste on passe à un endroit où c'était l'endroit où il buvait son café et que ça nous le fait intervenir dans nos vies, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça notre question.
Et ben, je propose qu'on écoute la piste que tu as ramenée. C'est Elsa qui t'a envoyé un vocal et qu'on écoute.
La meuf de mon frère, elle a dit de vider une maison, c'est comme un deuxième deuil. Il y a vraiment un truc qui se termine. Je continue à embrasser les photos de mon père quand j'en croise une et je continue à lui dire que je l'aime. Et quand on doit faire le tri dans la maison pour les objets, je lui ai demandé un peu pour certains objets pour lesquels j'avais des doutes, que j'avais vu toute ma vie, quoi. Si je devais les garder, je l'entends qui me dit « Oh, bah écoute, ma canaille, t'as pas besoin de ça pour pas m'oublier ou pour pas oublier telle ou telle ou telle chose. Franchement, on te prend pas la tête avec ça et tout. » Et c'est vraiment cette voix-là qu'il avait. Je cultive le fait d'imiter sa voix. Pour pas l'oublier, je répète souvent à haute voix le dernier message qui m'a laissé aussi. J'essaye de pas saccader le truc pour que ça suive, parce qu'au cas où quelqu'un en voit en même temps. Et ouais, je répète souvent son dernier message à haute voix. Mais là, je suis un peu fatiguée pour le faire. Je vous le ferai à un moment donné, promis. Et même là, dans la séparation des petits biens qu'il avait, parce que clairement, il était locataire d'un appartement dans un quartier HLM, il y a quand même des choses. Et je l'entends me dire ou me conseiller, je sais, je le connais, je sais ce qu'il m'aurait dit si on se prend la tête avec sa meuf sur tel ou tel meuble et tout. Les endroits où je peux lâcher et les endroits où j'ai de la légitimité à expliquer que ça compte pour moi. En fait, avant, j'ai vraiment grandi avec ma mère qui disait qu'on avait des anges gardiens. Elle nous a donné leur nom, leur pouvoir. Et depuis toujours, il y a genre un endroit dans le ciel auquel je m'adresse quand j'ai besoin de conseils ou d'aide. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas adressée au cosmos, là, à cet ange. Et il y a un mois, je lui ai demandé un truc et je l'ai eu vraiment à l'instant où je l'ai demandé. Alors, avec mon père, c'est la même relation qui est en train de se tisser. Je lui parle, je le dis à voix haute encore, « Ah, je t'aime, mon papa !» Et je l'entends qui dit, « Moi aussi, je t'aime, ma canaille !» Et j'entends tout ça. Je sens que je suis en train de le mettre lui aussi là-haut et de peux continuer à lui parler, en tout cas. Et je l'entends qui me répond. Et c'est hyper agréable. Et les gens, ils sont pas morts parce qu'ils sont vivants dedans. Et c'est cool. Je pense que je vais vous écrire un peu parce que c'est le mois du vidage, quoi. Je vous souhaite une joyeuse Toussaint. Big up à tous nos morts. Big up à toutes nos mortes. Big up à tous nos vivants. Big up à toutes nos vivantes. Et voilà, on est ensemble, quoi. Avec ceux qui sont là et ceux qui sont plus là, quoi. Plein de bisous.
Merci Elsa de t'avoir envoyé ce message et merci Mbalou de nous l'avoir partagé. T'as envie de réagir ou de... je sais pas, de rebondir là-dessus.
Ouais, bah après, c'est donc Elsa, c'est une amie. C'était plus facile de demander le consentement à quelqu'un que je connaissais pour pouvoir diffuser un vocal qu'on avait reçu. Donc c'est hyper émouvant parce que moi je le connaissais, son papa, et puis j'étais là à sa mort et en même temps, enfin voilà, justement, c'est aussi une petite reconnaissance pour moi de me dire si on n'avait pas fait ce petit protocole de recherche de témoignage, peut-être que c'était aussi des choses que j'aurais pas entendues, et ça me touche trop de l'entendre, quoi, et d'entendre la voix de son papa qui parlait vraiment comme ça. Et voilà, donc c'est et en fait ça, ouais. Ça a fait écho à plein de choses qu'on a aussi entendues dans d'autres témoignages. C'est cette chose autour des objets, quelle loyauté tu as envers les morts et les mortes par rapport à ce qu'ils auraient voulu que tu fasses. Enfin, c'est plein de questions qu'on se pose. Et voilà, je trouve que c'est très chouette la manière dont elle en parle.
Moi, ça me fait penser à un entretien que j'ai fait avec... En ce moment, je fais des entretiens avec des personnes très, très, très âgées. Et une personne qui a perdu son mari, on parlait de ça. Et puis spontanément, je lui dis « Mais vous lui parlez à votre mari ?» Et elle me répond, c'est vraiment genre « Bah, bien sûr !» Mais bon, des fois, il n'est pas d'accord avec moi. Alors bon, on se prend la tête. Et puis bon, finalement, je fais quand même comme je veux. Et puis... Mais c'était vraiment hyper... normal, la question est venue, mais parce que probablement je sentais qu'elle allait réagir pas en me disant mais c'est qui cette allumée, qu'est-ce qu'elle me raconte. Plutôt, elle était et du coup c'est évident. Enfin, c'était là au milieu de nous. Bon voilà, ça m'a fait penser à ça, quoi. Et toi, Claire, comment ça se passe concrètement de travailler sur cette matière? T'as aussi lancé un protocole de recherche, il me semble.
Eh ben oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, avec Charlotte Mignot, on avait commencé à interviewer, je ne sais plus, là pour l'instant, on a fait 5 ou 6 interviews de différentes personnes, principalement des personnes qui avaient vécu des deuils importants dans leur vie et qui, comment dire, qui, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est pas qu'ils s'en sont sortis, mais du moins qui arrivent à avancer dans leur vie par rapport à ça. Et du coup, on a récolté ces témoignages. J'ai été aussi pareil au Café Mortel. Enfin, sur mon spectacle, ça m'intéresse de... Enfin, la théorie m'intéresse un petit peu, mais c'est plus vraiment le vécu des gens qui m'intéresse et qui me touche. Aussi dans l'idée que ce spectacle puisse toucher les gens dans leurs histoires personnelles et qu'on puisse, alors je ne sais pas encore sous quelle forme, mais que ça puisse faire collectif dans l'espace public autour de cette question. Et du coup, là, pour l'instant, donc là, j'en suis aux prémices d'écriture. Hein, j'avance doucement, mais sûrement. là, pour l'instant, l'histoire qui est en train de commencer à s'écrire, ça serait donc l'histoire d'une femme qui a perdu sa compagne 5 ans auparavant d'un accident en montagne, qui serait morte dans une avalanche, mais dont on n'aurait jamais retrouvé le corps de cette personne. Et du coup, c'est cette femme qui se bat depuis 5 ans avec cette mort qui n'a jamais vraiment été actée administrativement, parce que tant que le corps n'est pas retrouvé, il n'y a pas de mort administrative officielle. Et là, c'est cette déambulation, ça serait le moment où elle s'est décidée d'aller poser une lettre au procureur de la République, parce que dans ce cas-là, c'est aux proches d'aller poser une lettre, de remplir un CRFA pour demander la mort administrative de la personne en amenant des preuves, mais voilà. Et donc, ça serait une déambulation où elle emmènerait le public à travers la ville. Et au travers la ville, se rejouerait l'histoire, leur histoire d'amour, leur rencontre, et puis la disparition et tout ce qui s'en est suivi. Voilà, ça, c'est l'histoire de fond qui est quand même bien lourde, hein, faut dire ce qui est. Mais en même temps, là, je sors d'un précédent spectacle. Enfin, je tourne en parallèle un autre spectacle en trio qui s'appelle Les Sœurs K, où on est sur une histoire d'enterrement, de cérémonie funéraire, mais qui est pour le coup très burlesque et très drôle et voilà, très burlesque. Et du coup, qui est très chouette. Mais là, avec ce spectacle que je suis en train de créer, j'avais vraiment envie d'aller plus dans le fond et dans le dur et d'aller chercher des choses plus profondes. Donc, c'est pour ça que je parle d'une histoire qui est quand même assez, assez dure. Et ensuite, l'idée, c'est d'amener... d'essayer d'amener de la poésie. Ça, je compte beaucoup sur l'aspect musical. Donc, Chloé Sermemorin, c'est la musicienne qui jouait dans le spectacle Ouvrière, qui a joué à la Parenthèse, là, il y a quelques mois. Et donc, elle joue de la guitare électrique et elle chante et elle est compositrice. Il se trouve, en fait, que je lui ai demandé de travailler sur ce projet avec moi et que j'ai découvert ensuite que ses propres compositions, son groupe s'appelle Caïman. Et elle travaille que autour de la mort et du rapport avec les morts et tout ça. Donc c'est...
Bonne pioche.
Ouais, c'est ça. C'est quand même assez, assez marrant. Je ne le savais pas avant. Mais du coup, voilà, elle amène, je pense vraiment, cet univers musical va amener beaucoup de poésie et aussi de travail sonore avec des sons de nature, des sons de liés à l'histoire de ce qui se raconte et tout ça, pour amener aussi un peu de l'imaginaire. Et moi, je viens du clown, donc du coup, j'ai un jeu qui est très clownesque. Donc du coup, voilà, c'est de trouver, ça va rester un spectacle théâtral, mais je compte amener du décalage et de l'absurde au milieu de tout ça, quoi. Voilà, il va falloir trouver un peu tout ça. Mais c'est pas évident, parce qu'il faut quand même rester juste avec le sujet, parce que, enfin, ça, pour moi, c'est important que d'être juste avec ce qu'on raconte. Il y a Rochoran qui est là aussi, qui m'accompagne aussi sur l'aspect autour des thématiques autour du deuil, qui lui s'est formé autour de la question du deuil et de comment accompagner les personnes endeuillées. Et du coup, pour être juste aussi dans ce que je raconte, bah, par exemple, ça fait 5 ans que c'est arrivé. Est-ce que c'est possible qu'au bout de 5 ans, une personne en soit là? Enfin, voilà. Évidemment, ça reste personnel à chacun, mais voilà, il y a des différentes questions comme ça. Et je me suis embrouillée dans ce que je disais.
Non, c'est parfait. Voilà. Et du coup, peut-être on écoute un des sons que tu as ramené. Oui. Toi, c'est aussi un témoignage.
Oui, alors c'est un témoignage de Maïté Gaspari, qui est psychologue. Donc elle travaille en cabinet auprès de plein de personnes différentes, mais pas mal aussi auprès d'enfants endeuillés, enfin de fratries qui ont perdu un frère ou une sœur. Et elle a aussi beaucoup travaillé au CHU de Grenoble pour accompagner des personnes soit en fin de vie, soit des parents qui ont perdu leur bébé dans la mort subite du nourrisson. Et c'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle a une grande sensibilité. Enfin, du coup, il y a cet aspect psychologue et aussi c'est toute une sensibilité qu'elle a autour. Et voilà, je vous laisse découvrir des bribes d'extraits.
J'ai perdu mon grand-père, j'avais 17 ans. J'étais très proche de lui, qui est tombé malade, qui a eu un cancer, qui a duré un moment, avec toutes les étapes vraiment rudes, hein, où il a perdu ses facultés vraiment petit à petit. Et une nuit, je me suis réveillée au milieu de la nuit en nage, le cœur qui battait un truc assez fou de réveil comme ça en sursaut. Et d'un seul coup, c'est comme si toutes les tensions dans mon corps, elles s'en allaient. Et il y avait l'évidence pour moi qui venait de mourir, en fait, qui partait. Mais du coup, dans un truc hyper apaisé, parce que j'ai senti ce grand apaisement-là, et au point de me rendormir au milieu de la nuit. Et le lendemain matin, ma mère est venue me réveiller et elle m'a annoncé son décès. En fait. Et quand, enfin, elle avait une voix particulière, je chantais qu'il y avait quelque chose, et donc je me suis doutée que c'était ça, mais aussi parce que je le savais, je sais pas comment dire. Et comme je m'étais réveillée comme ça dans la nuit, j'avais regardé l'heure, et en fait son décès correspondait à l'heure qui avait été. Et j'avais vraiment ce sentiment d'avoir senti ce moment-là, ce passage, et de sentir ce grand apaisement qui avait participé à quelque chose finalement d'un peu serein, il était parti, puis finalement d'avoir accompagné ce moment-là, sachant que c'est un membre de ma famille avec qui j'avais un lien vraiment extrêmement proche. Et moi, je me dis que ça joue dans mon rapport à la vie. Enfin, j'ai un rapport, je pense, particulier à ce qui est grave. Je pense que pour moi, il y a très peu de choses qui sont graves. Mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup lié à ça, à ce rapport spirituel, et que des choses comme le décès de mon grand-père ont participé à ça, à se dire non, mais on est connecté à des... Enfin, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent. Les expliquer, c'est compliqué, mais en tout cas... Il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait exister. Après, ça, par exemple, c'est une chose que je peux raconter, pareil, de mon expérience de psychologue, où quand j'accompagne des enfants et des adolescents, dans le décès d'un proche, ou simplement c'est mes patients et ils perdent un proche, et ça m'est arrivé plusieurs fois que d'avoir des enfants qui racontaient qu'ils voyaient la personne morte. Et mes collègues qui sont plus dans ces courants de chamanisme et de... Elle disait ça, elle disait que plus un enfant est jeune, plus il est au contact de toutes ces énergies-là et de tout ce rapport spirituel. Et que du coup, eux, ils perçoivent beaucoup plus. Puis nous, avec le temps, en fait, on s'éloigne de ça. Et du coup, ils peuvent raconter ça. Par exemple, d'une jeune adolescente, elle devait avoir 12-13 ans, qui a perdu sa grand-mère, dont elle était très proche. Et qui me racontait qu'elle la sentait, elle la voyait. Donc, par exemple, dans la voiture, sur la banquette arrière, elle l'avait sentie à côté d'elle, dans la chambre. Des fois, il y a des sentiments un peu de peur, et des fois, non, c'est assez apaisé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, des enfants qui le racontent. Et après, moi, j'ai l'impression de travailler avec tout ça. Comme j'avais une patiente qui était très chouette, qui m'avait dit, quand on est arrivé à la fin du suivi, elle me disait, ce qui était incroyable dans notre suivi, c'est que j'avais l'impression que vous aviez vécu 1000 vies. En fait, quoi que je vous parle, quels que soient les sujets, j'avais l'impression que ça faisait résonance. Et ça m'avait marqué quand elle avait dit ça, parce que je me dis, ah, c'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire qu'à force, comme ça fait des années, et comme c'est mon quotidien, et plus les expériences de la vie autres par ailleurs, en fait, c'est comme si ça donnait une expérience, finalement, un peu par procuration, par l'intermédiaire de ces parcours partagés, de plein de choses. Et que finalement, ça permet de comprendre, de saisir plein d'expériences de la vie, dont celle du deuil, qui reste une des plus marquantes aussi en termes d'accompagnement, hein. Et des plus riches. Parce que souvent, c'est pareil, on dit, souvent j'ai ce retour de être psychologue, ça doit être dur, on doit entendre que des choses tristes. Alors que moi, c'est pas du tout mon expérience, assez joyeux, et, ou intense ou profond. Et par exemple, autour du deuil, en fait, les circonstances peuvent être dures, mais en fait, c'est tellement, il se passe tellement des choses, c'est tellement dense qu'en fait, c'est plein de vie quand même. Et c'est plein de profondeur. Et ça permet de ne pas être dans quelque chose qui soit lourd. C'est jamais lourd, en fait. C'est très rarement. En fait, c'est plutôt porté... Enfin, c'est comment les vivants, en fait, vivent la mort. Mais du coup, on est du côté de la vie. Et comment aider les vivants à être bien avec la mort? C'est un peu aussi ça.
Merci donc à Maïté. Et merci à toi, Claire, de nous avoir... ramener cette parole. Ça me permet d'enchaîner sur cette question qu'on a un peu préparée pendant qu'on préparait ce plateau sur la spécificité de parler de ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est le thème de notre table ronde. Hein. Est-ce que c'est une matière artistique comme une autre? À quoi vous devez penser en manipulant ce sujet-là? On a parlé du rythme, on a parlé du fait que vous ayez toutes les deux choisi des formes déambulatoires. Pourquoi est-ce qu'il y a des échos au trauma? On l'a un peu évoqué au début du plateau, mais sur la question du public, mais aussi des programmateurs, programmatrices. On donnera la parole à une programmatrice après, mais qu'est-ce que c'est cette spécificité de parler de ce sujet-là dans le travail artistique? C'est la question à 1000 euros de 19h.
Ouais, pas évident. Non, en tout cas, sur l'espace public, il y a quelques petits trucs à dire. C'est que déjà, ça ouvre la parole publiquement, contrairement à jouer en salle. Quand on joue en salle, on s'adresse à un public souvent averti, habitué au spectacle. Qu'en extérieur, on s'adresse potentiellement un peu aux tout-venants, à des passants, des gens qui étaient là un peu par hasard. Et l'extérieur, en tout cas sur ce sujet-là, pour moi, c'était important d'être dehors parce que c'est un sujet très dur, potentiellement, et que si les gens ont besoin de sortir, d'aller souffler à côté de quoi que ce soit, c'est complètement possible et simple, que dans une salle, c'est toujours plus délicat. Et puis l'extérieur, enfin, je sais que moi, j'ai besoin de la nature et de l'extérieur pour au niveau émotionnel et sensibilité, et que quand on est en extérieur, on a aussi le point de vue, on peut regarder, enfin le regard peut être au loin et il y a de l'air, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui est plus simple pour respirer et puis pour laisser passer les émotions.
Ouais, moi je rejoins assez ce que dit Claire par rapport à l'extérieur et avec c'est ça le côté un peu plus libre, entre guillemets, qu'a le spectateur de s'éloigner, en tout cas physiquement déjà, de ce qui se passe. Après, nous, on a un rapport qui est assez différent parce que nous, les spectateurs vont être casqués. Donc, le spectacle de fait ne va pas tant s'adresser à des gens qui passeraient là par hasard parce qu'ils n'entendront pas simplement ce qui se passe. Mais dans tous les cas, les spectateurs, on a un peu la liberté physique de... rendre leur casque et de partir. Après, nous, on se pose beaucoup la question, donc il y a un peu cette question du trigger, de comment est-ce que, en fait, on va parler de sujets qui potentiellement vont raviver des traumas chez des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a pas la réponse en soi. En tout cas, nous, pour cette créa, on est vraiment sur... en fait, on n'a pas du tout envie de parler frontalement du sujet, et c'est assez complexe.
Dans la communication, tu dis?
Dans la communication, mais même dans le spectacle, en fait. Ah, oui. L'idée, donc je dévoile. Mais en fait, on est toujours sur un peu l'idée de la fausse piste, c'est-à-dire de de que tout un temps du spectacle qu'on puisse croire que en fait c'est un anniversaire. Enfin bref, que et que par exemple le personnage de, que moi je joue qui est cette personne qui est défunte en fait, que ça soit pas forcément très clair dès le début, voire même jusqu'à la fin, et que ça puisse être une fois le spectacle fini, en relisant tous les événements, qu'on puisse se dire ah mais en fait si ça se trouve elle est morte en fait. Alors c'est très compliqué parce que en fait un peu comme disait Claire, on a aussi envie de vraiment parler du fond, donc le fait de vouloir jouer sur cette fausse piste, bah des fois ça nous donne l'impression qu'on s'éloigne du fond. Donc là on est vraiment dans ce travail là d'essayer de voir jusqu'où on peut tenir ce truc, à quel moment est-ce qu'on doit révéler et qu'est-ce qu'on révèle. Mais en fait nous, ce qui nous avait beaucoup plu dans la première étape de création qu'on avait fait en 2018, c'est qu'il y avait des gens qui avaient compris au bout de 2 minutes. Au bout de du premier texte que ça parlait de la mort, et il y a des gens qui ont compris qu'à la fin en arrivant au cimetière, et en fait évidemment c'était corrélé à la relation au deuil qu'ils avaient, en fait des gens qui avaient des deuils très proches qui, en fait, pour eux c'était évident que ça parlait de ça, et nous ça nous a plu en disant bah, en fait on aimerait bien créer une forme où chacun peut se raccrocher à l'endroit de son expérience, et que si c'est une expérience qui leur parle pas du tout, que ça soit aussi ok qu'il y ait d'autres choses auxquelles se raccrocher. Et du coup, on parle quand même du deuil d'une manière plus large que celle qui est liée à la mort. C'est-à-dire qu'on, du coup, on va aussi chercher dans, en fait, c'est quoi le deuil d'une relation, d'un endroit. Donc là, dans notre pitch, on est aussi en train de suivre un personnage qui revient dans sa ville d'enfance où elle n'a plus mis les pieds depuis. Potentiellement le temps du deuil, et donc il y a aussi tout ce truc-là en fait de qu'est-ce que tu abandonnes, comment est-ce que tu crées des relations avec des choses que tu ne vis plus au quotidien, et voilà. Et donc nous, notre idée pour parler de ce sujet-là, c'est justement un peu de parler de plein de choses parallèles, et que ça soit que le sujet du deuil, ça soit un peu le souterrain, quoi. Alors c'est dans l'idée, on est un peu comme je disais, on est aussi pris par ce truc de mais en fait on veut quand même vraiment parler du deuil, donc comment est-ce qu'on dose ça, mais c'est un travail qui est compliqué mais très intéressant.
Ouais, et puis on parlait aussi effectivement qu'est-ce qu'on met dans le pitch de la com. Ouais. Est-ce qu'il faut avertir le public? Est-ce qu'il faut mettre des trigger warnings? Est-ce que en même temps si on en met ton expérience avec l'adolescente qui est pas venue à l'atelier, c'est-à-dire que si t'avais pas dit que ça va être là-dessus, elle aurait été là et peut-être elle aurait passé un bon moment qui aurait fait du bien.
Ouais.
Des questions complexes quoi.
Ouais, c'est des grosses questions. Ben nous, là, en plus, ce qui est très dur, c'est dans les timings des fois de la création, c'est que, par exemple, on a dû envoyer de la com il y a une semaine pour un spectacle qui sort dans un an, qu'on n'a pas fini d'écrire. Et donc, on s'est vraiment posé la question. Et pour l'instant, on a décidé de ne pas révéler dans le pitch du spectacle que ça parle du deuil. En même temps, en parallèle du spectacle, on propose à chaque fois un café mortel et un karaoké... comment il s'appelle d'ailleurs, un karaoké de la mort, je crois. Donc bon, les gens, s'ils lisent les trois à la suite, je pense qu'ils se doutent un peu qu'il y a un truc comme ça dans le... Mais voilà, on s'est aussi permis ça dans la mesure où on parle pas trop frontalement de ça, en se disant que du coup... Et qu'il y a cette possibilité de partir, en fait, donc en disant que voilà, le trigger, il serait géré plutôt comme ça, et que justement, on voudrait se donner la chance de qu'il soit pas pris en amont, comme « Ah, ben c'est un spectacle sur la mort, je vais pas y aller ». Parce qu'on est aussi, on travaille aussi avec du décalage et avec des choses assez joyeuses en fait. Donc voilà.
Et on va faire une autre petite pause musicale parce qu'après on va faire une troisième partie qui sera plutôt vos questions et puis aussi un peu des trucs et astuces en cas de décès. Non, il y a des gens qui, on se disait en préparant, on se disait ah, ce serait tellement bien qu'il y ait une brochure avec tout ce qu'on peut faire, enfin, quand on travaille sur la mort, c'est ce qu'on disait avant, on a plein de trucs et astuces, quoi. Quelle pompe funèbre choisir, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, avant de se faire déposséder du rituel en cours. Et il y a des gens qui l'ont fait dans un bouquin, bon, bref, je vais vous parler de ça. Et puis après, peut-être que vous avez des questions. Et puis j'ai aussi envie de donner la parole, par exemple, à Colline, qui est programmatrice et qui va avoir peut-être une casquette plus prog. Et puis à Solène aussi, qui est là, je te out. Solène, qui a créé le spectacle Papillon Noir, qui sera diffusé à la Navette le 13 juin, dans le cadre du Printemps Mortel, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il n'y a pas très longtemps. Alors toi, tu étais sur un spectacle de magie mentalisme sur la mort, mais tu as peut-être des envies de réagir aussi à tout ça. Donc voilà, troisième partie, on ouvre là-dessus. Mais d'abord, une petite pause musicale avec un choix que tu as fait, Mbalou.
Ouais, c'est une chanson de Kay Tempest, qui est un artiste que j'adore déjà en général. Et en fait, cette chanson, elle m'est apparue, ça a été vraiment un signe.
Une apparition un peu comme...
C'était vraiment une apparition. vraiment, en fait, j'avais rêvé, je m'étais réveillée un matin, je venais de rêver de cet ami qui s'est suicidé. C'était un rêve assez prenant et un peu ces trucs où tu rêves et puis le matin, tu es obligé de te rendre compte qu'en fait, la personne est morte. C'est des moments vraiment horribles. Et alors, je sais pas comment, j'ai allumé mon ordi, Spotify était lancé et il y a cette chanson qui est passée qui raconte en fait exactement ça. Enfin, c'était assez flashant. Et voilà, et du coup j'avais envie de la partager aussi parce que nous on travaille aussi beaucoup sur ça avec Blanche sur cette idée des signes en fait, de comment est-ce que tu deviens réceptif aux signes quand t'as besoin que les morts te parlent, enfin en fait c'est ça, on sait pas c'est quoi la poule de l'œuf, est-ce que les morts te donnent des signes ou est-ce que toi tu cherches des signes parce que t'en as besoin. En tout cas c'est clair que depuis qu'on travaille dessus on a des signes tout le temps et ça c'était un gros signe voilà.
Et donc, We Die de Kate Tempest.
C'est en anglais, mais bon, concentration.
Across the street, above the green in the flat with the colourful curtains, Alicia's wrapped in her blankets. Head leant back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons prickled in her skin all day, sucked her back through time and left her feeling far away. He was in her dream. She hasn't dreamt of him for months. She's so tired when she sleeps, she doesn't really dream at all. But there he was, holding his belly, blood on his shirt. She heard him scream her name, and then she saw him fall. Alicia wipes her face and whispers to herself, "It was just a dream." She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4:18. It's a strange thing, your face seems to fade with the changing seasons. Then for some reason it comes back more present than ever. Well, not your face really, more a sense of you. Even though I know it's happened, it's no more comprehensible than if it was an abstract thing, someone else's friend. Are you asking me for something? Is there something I should do? It's hard on your mother, she lost your little brother too. But your sister's doing good, man, she's smart, smart like you. And she'll finish her degree next year, try and find a job. I suppose she's got her head screwed on right, you don't have to worry. Is there something else though? I mean if there is, I'm sorry, cause I can't really think what you might want from me. I heard your voice a lot, it won't be. I don't believe in ghosts. Work's fine, life's good, Ty's nearly four now. Smart enough to walk round and hear what I don't say. The night it happened is vivid in my brain, it won't fade. Life is long still, some things don't change. Nice to fall in love again, but that ain't gonna happen soon. I'm trying to get some money saved, fix up the living room. Nearly got in trouble, I got angry with my manager. There's this young girl who works with us, he tried to put his hands on her. It's such a waste, so many idiots alive and kicking. Why'd it have to be the only sane man in town? Well, I'm probably only saying that cause you're not around. But I'm keeping my chin up though, I don't let it get me down. I heard your voice, so glad it woke me up. I don't believe in ghosts. You're with me all the time. I think I know you better than I did when we were hanging out together. What's it like where you've gone? Well, I can feel it. It's okay, I know you can't say. But you've been with me all day. I have to tell you, when it happened, I couldn't cry for ages. But when it hit me, I fucking screamed like a lion in a cage. And look, I fasted. I didn't eat a thing for like a week. And I just walked across the heath in the rain, spitting bars to the grass and listening to the cars skidding past. I thought life would get more real or something more fast, but it didn't. When I look at your son, no, life's hidden meanings come to the front of my vision, and it's weird the way I see it right now. It's so strong. I'd never be the person I'd become if you were never gone. Everything's connected, right? Everything's connected, and even if I can't read it right, everything's a message. We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on, right? We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on.
C'est We Die de Kate Tempest, un choix de Mbalou. Sachez également que Mbalou a créé une petite playlist mortelle. Et que du coup, oui, parce qu'en parallèle du Printemps Mortel, il y a des rendez-vous sur les ondes, sur deux créneaux dans la semaine. J'ai créé une page sur le site internet qui s'appelle Les Rendez-vous Mortels, enfin, ou La Mort sur les ondes. Et du coup, toutes les semaines, je mets des nouvelles playlists avec des interviews. Donc par exemple, ce plateau-là, bah, il sera aussi sur cette page-là. L'interview avec Solène aussi. Et bah, il y a une demi-heure de playlist de Mbalou, dont il y a ce morceau. Voilà, tout ça pour dire que vous pouvez le retrouver, quoi. C'est la troisième et dernière partie de ce plateau. On est toujours au centre social. Les enfants sont partis. Nous, on commence à avoir un peu froid, donc on ne va pas faire trop long. Mais je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle « La cendre de tes morts ». C'est une personne qui est plutôt précaire et qui cherche tout un tas de boulot. Tout et rien. Et un jour, Pôle emploi lui propose, France Travail, lui propose de bosser au crématorium de sa ville. Et du coup, elle se retrouve agent technique d'un crématorium. Donc elle se dit, c'est un boulot comme un autre, hein, j'aurais qu'à y aller. Et puis en fait, elle raconte avec une langue un peu incisive comme ça, c'est quoi de bosser dans un crématorium, c'est-à-dire de faire elle-même les crémations. Donc elle se retrouve à bosser avec les morts aussi, elle est au contact des pompes funèbres, elle a plein d'histoires de sexisme aussi, de ces gros gars qui arrivent, qui luttent contre être touchés par ce qui se passe. Enfin bon. Voilà, donc c'est ce bouquin là, elle s'appelle Albertine Delampe, et elle, à la fin de ce bouquin, elle a créé un petit des annexes, alors notamment avec une petite histoire des pompes funèbres, des règles et usages de l'inhumation et de la crémation, et aussi ce petit guide dont je parlais juste avant. Donc il y a aussi une interview pour une approche collective de la mort avec une militante et conseillère funéraire indépendante. Et quelques questions qu'on peut se poser à la mort d'un proche. Parce que des fois, on est un peu pris par l'émotion, par exemple, ou par la surprise, ou par... Enfin bref, on se fait un peu déposséder de toute cette question-là. Donc elle a fait un petit guide pour faire ses propres choix, avec où la personne défunte va-t-elle reposer pendant la cérémonie, comment ça va se passer la cérémonie, quels soins elle va avoir, comment elle va être vêtue, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, qui paye, tout ça. Donc c'est quand même assez riche d'avoir ça. Et aussi un annuaire des coopératives funéraires, parce que sachez qu'il y a des coopératives funéraires, ça vient plutôt du Québec, hein, ce genre de modèle, mais il y en a en France. Et des ressources, des livres, des podcasts, pièces de théâtre, tout ça. Et du coup, c'est le genre de petit guide que je trouve pas mal à faire circuler. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et puis, et d'ailleurs, Thanatosphère, qui est partenaire de l'événement, est cité dans les ressources. Oui, Claire.
Pour Thanatosphère, Agathe propose beaucoup d'ateliers avec Thanatosphère, justement autour de la législation funéraire et tout ça, qui sont vraiment passionnants et qui justement expliquent qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Et je crois qu'il y en a un certain nombre aussi pendant les printemps mortels. Enfin, c'est des ateliers qui sont gratuits et qui sont vraiment passionnants. N'hésitez pas à y aller.
Plus soi.
Oui, parce que en fait, il y a plein de trucs où, comme tu disais, il y avait plein de choses au décès de ton père que tu t'es posé comme question, et qu'en fait, des fois, la religion, elle répond à ces questions. Moi, par exemple, à la mort de mon père, la religion a répondu à plein de, c'est à ça que ça servait, hein, aussi la religion, c'est aussi à faire les rites, à pas trop se poser de questions. Mais quand on est dans quelque chose de séculaire et de, il y a plus tout ça. Se poser les questions de, effectivement, des vêtements, enfin.
Oui, et aussi se poser les questions du capitalisme là-dedans, parce qu'en fait, les entreprises funéraires, c'est des entreprises... la mort est monétisée, et du coup, de savoir en fait quels sont nos droits dans la manière dont nos proches défuntes sont traités, c'est aussi important pour justement pouvoir s'extraire aussi de ce qu'on essaye de nous imposer, qui est aussi une surconsommation au niveau de la mort, parce que... Voilà, en tout cas, au niveau des enterrements, c'est hallucinant ce qu'on va foutre dans le sol en te disant que c'est obligatoire, alors qu'enfin, en tout cas, en te laissant croire que c'est obligatoire, alors qu'en fait, tu n'es pas obligé de mettre du satin ou des tissus synthétiques dans un cercueil. Tu peux complètement amener les draps de chez toi, en fait, et ça, c'est des choses qu'on te dira jamais. Donc, c'est important, ouais, de se réapproprier ces savoirs-là, même d'un point de vue politique, à tous les niveaux, quoi, écologique, politique, ritualistique.
Ouais. Formons-nous donc. Avant que vous soyez complètement congelés, je vais vous donner la parole au poil, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions à nos invités, mais aussi des réactions? Peut-être que tout ce qu'on vient de brasser vous donne envie de réagir. J'ai désigné volontaire deux personnes à qui donner la parole, mais je ne force personne à la prendre en premier. Donc je fais circuler ce micro à chef. Merci Jean-Claude.
Et bonsoir. Du coup, moi, je voulais juste apporter le petit regard de jeune programmatrice que je suis. Ça fait pas très longtemps que je suis programmatrice, mais je me suis retrouvée confrontée au sujet de la mort à plusieurs reprises, comme on le disait, il y en a beaucoup qui créent autour de la mort, donc voilà. Mais pour en revenir, moi, à mon déroulé en tant que programmatrice par rapport au sujet tabou, en fait, mon premier sujet tabou qui est survenu, c'était plutôt un spectacle de danse sur les menstruations. Et où je me suis justement posé cette question de « Ah, ce sujet tabou, là, comment on le programme, comment on communique dessus, comment on a quand même un peu la certitude d'avoir du monde, parce que ben, on est quand même dans un système qui est économiquement a besoin d'être un peu viable aussi dans la culture. » Donc, et en fait, je l'ai présenté notamment, moi je suis dans une association, donc j'en ai parlé à notre conseil d'administration, et ça a fait d'autant plus peur aux personnes dans le conseil d'administration. Et j'ai finalement défendu ce truc-là parce que il me semble qu'on ne fait pas du spectacle pour rien, que la programmation est justement là pour parler de sujets tabous, d'enjeux sociaux, de diverses choses, notamment grâce à une approche sensible, poétique, métaphorique, qui permet de toucher des gens de diverses manières, et que ça me paraît être un des objectifs du spectacle. Enfin, ça a vraiment cet intérêt-là. Et du coup, j'ai fini par le défendre à tel point que j'ai monté une journée de réflexion sur comment on parle de sujets tabous dans le spectacle, autant pour les artistes qui créent et de quelle manière ils ont envie de créer ces choses-là, et comment, en tant que programmateur, comment on défend ces projets-là. Et ensuite, je me suis retrouvé avec hier en résidence une compagnie qui s'appelait Le Cri de la Fourmi, qui faisait un spectacle sur... le deuil des enfants, là pour le coup, c'était justement sur la perte d'un enfant. Et là, la problématique était autre, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, c'est un sujet tabou, peut-être que comme tout autre spectacle d'ailleurs, quel que soit le sujet, c'est toujours intéressant de faire de la médiation en amont ou autour du sujet, histoire que ça ne soit pas juste envoyé comme ça. Et puis aussi pour permettre qu'il y ait des gens qui viennent et qui n'aient pas peur de venir juste parce que le sujet paraît un peu frontal. Et c'est vrai que c'était un peu complexe. Enfin, là, vous parliez de recherche de témoignages. Là, sur ce cas-là, c'était comment trouver les personnes, comment toucher les personnes qui avaient perdu un enfant. Et en fait, c'est pas évident. D'où l'intérêt de. Enfin, là, ce qui avait été fait notamment, c'était de proposer une projection d'un film qui portait sur ce sujet-là, en se disant bon, c'est une approche douce. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils vont être ils vont vouloir venir voir cette projection, et puis finalement on va amener ce truc qu'il y a ce travail de création, et comment s'il y a des gens qui ont envie de venir y participer, ils peuvent venir témoigner et participer à des ateliers avec cette compagnie. Et puis j'ai accueilli une autre compagnie qui est le Tungsten Théâtre, qui a été programmé dans le cadre de ce Printemps Mortel là. Et au départ, nous, on a un festival qui s'appelle Des Pieds des Mains, qui programme des jeunes créations, et ça faisait partie des spectacles qu'on avait accueillis en résidence. Donc, pourquoi pas le programmer au moment du festival ? Et on l'a pensé pendant longtemps comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit « Mais quand même, le festival, c'est un moment convivial, un moment festif. Est-ce que vraiment on a envie de programmer un spectacle sur la mort à ce moment-là ? Moment très familial, tout ça ? » Et je me suis dit non. Je me suis dit non, faut quand même un moment un peu dédié, un moment où on prenne le temps d'en parler. Voilà, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et finalement, là, cette année, j'ai programmé le spectacle Tant bien que mal de la compagnie M, qui porte justement sur la mort, où c'est donc une comédienne qui fait 9 personnages d'une même famille qui se retrouvent confrontés à la mort d'un des frères dans la famille, et c'était un samedi soir, et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait de cette programmation un samedi soir. Ça, c'est la date avait été un peu apposée, je me suis dit c'est quand même un samedi soir, on va prolonger par un moment musical, tenir une buvette, tout ça, et ah puis oui, je boire, m'étais dit
c'est bien ça.
Ben, en fait, il y a un truc qui était génial dans ce spectacle, c'est que on était vraiment touché par le sujet. Enfin, il y avait vraiment toute cette famille avec plein de personnages où en fait on pouvait vraiment s'identifier ou identifier des proches. Ça fonctionnait bien, et en même temps il y avait vraiment cette note d'humour. Et moi, j'ai remarqué quand même ça dans les spectacles, c'est qu'à partir du moment où il y a un moment où les gens rient. À partir du moment où les gens ils ont ri, en fait, ils ont un peu lâché prise, et ils se font embarquer par toutes les émotions qui peuvent être transmises derrière. Et voilà, mais ça avait cette richesse de plein de spectacles sur des sujets qui peuvent être un peu difficiles, mais où, où en fait on rit aussi, et enfin on n'est pas dans un moment d'hécatombe complète. Et, mais il n'empêche que tout le monde vit ça différemment, et qu'à la sortie de ce spectacle, ben, y a des gens, ils ont eu besoin d'aller s'isoler plus loin. Il y a des gens, c'est le contraire, ils se sont retrouvés à danser sur des tubes. Voilà, c'est, tout le monde l'a ressenti de façon différente. Et je suis quand même sortie de là en me disant, y a-t-il un moment particulier pour parler de ce sujet ? Finalement, peut-être pas tant. De la même manière que la mort survient à plein de moments dans la vie, on ne les choisit pas. Et que voilà, si on veut sortir un peu du tabou, ben finalement, il n'y a pas de moment spécialement dédié pour ça, quoi.
Mais merci pour ton témoignage, Colline. Moi, je me disais, ça me fait vraiment penser à ce truc de si on estampille sujet tabou, attention, oh là là, ça va être dur. Est-ce que finalement, on ne se prémunit pas de quelque chose qui... Enfin, c'est aussi ça que le Printemps Mortel, par exemple, essaye de faire, c'est de le mettre simplement là, sur la table, entre nous, comme les menstruations dont tu parlais. Donc, en fait, on est quand même... beaucoup à être concernés, la mort encore plus. Et du coup, je me dis, ben voilà, si le sujet est là, alors peut-être il faut penser des dispositifs d'accompagnement. Je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous avez pensé. Solène, il me semble qu'on en avait parlé dans notre interview. Je te double out. Qu'est-ce que, effectivement, est-ce qu'on permet au public de vivre des choses autres après ? Est-ce que ça s'encadre autrement, un spectacle qui parle de la mort ? Mais de là, si, enfin, moi j'ai l'impression que voilà, si on met trop de trigger ou de attention, finalement ça, c'est peut-être, ça dessert un peu la démarche, quoi. Et est-ce que c'est pas politique ou justement militant de se dire, bah voilà, c'est là au milieu de nous et on en parle, quoi. Je renvoie la question comme ça.
La question s'est posée à la sortie de Tant bien que mal, où moi je sais que quelqu'un est venu me voir en me disant j'ai appris le mot trigger que je ne connaissais pas, mais qui était justement à dire ça aurait peut-être été bien d'eux. Et en même temps, j'ai des gens qui sont venus me voir aussi en me disant « Ah bah, j'avais un peu peur au début de venir parce que j'ai vécu un décès récemment » et qui étaient ravis d'être venus. Mmh. Ce qui m'a fait, moi, à la sortie de ce spectacle-là, en tout cas, me dire que, heureusement qu'on n'avait pas trop mis en alerte et que même le pitch sur le spectacle, c'était pas si évident, en fait, que ça allait tourner aussi fort autour de ce sujet. Et j'ai aucun regret parce que, quand même, enfin... Tout le monde est sorti en étant ravi, même si chamboulé, même si... voilà. Donc je trouve que, ouais, avec modération, il y a vraiment cette question. Si c'est tabou, si on part déjà d'un sujet qui est pour le moment tabou et si on met du préventif, finalement, c'est continuer d'en faire un tabou. Enfin, voilà. Mais dans une certaine mesure, hein, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça dépend vraiment. Mais...
Il y avait Claire.
Ouais, j'ai aussi l'impression que, enfin, en tout cas, je pense que c'est important pour moi dans le spectacle qu'il y ait un temps de discussion informelle à la fin, qu'il y ait un pot à boire ou quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui amène à ouvrir des discussions et avoir besoin de sortir des choses ou des émotions. Et du coup, c'est peut-être pas si neutre que ça non plus comme sujet. Et que du coup, que ça amène, tu vois, ce que tu disais, Colline, de faire une buvette après ou quoi. C'est aussi des moments importants après des spectacles comme ça, particulièrement, quoi.
Oui, j'abonde dans votre sens. Justement, nous aussi, on s'est posé la question de l'après-spectacle, et pas forcément de l'avant-spectacle, justement, de comment on prépare les gens, mais plutôt comment on les laisse repartir. Et on en vient un peu à la même chose, on atterrit à la buvette. Et je trouve que ça rejoint peut-être aussi un petit peu le principe des cafés mortels, mine de rien. C'est un moment où on va pouvoir partager des témoignages et puis du liquide, que ça circule, quoi. Et pour nous, c'est hyper important. Et ce n'est pas forcément facile à faire entendre au lieu qui nous accueille. Que ce n'est pas en annexe, que ce n'est pas quelque chose de supplémentaire. Ouais. Voilà, ce n'est pas une option, c'est un peu aussi le deuxième cœur du spectacle.
Est-ce que, tant que tu as le micro en main, tu as envie de partager un peu, toi, ton expérience de création autour de Papillon Noir, brièvement, ou des choses peut-être qui ont été dites ce soir et qui te font écho, sachant que l'interview complète de Solène va être disponible sur notre site internet radioroyant.fr bientôt. Mais là, peut-être.
Je réagis un petit peu à cette question du tabou, parce qu'évidemment, on se frotte à ça. Le Papillon Noir, c'est un spectacle qui parle de plein de petites choses, mais notamment, il y a une séquence au milieu qui est sur la question de l'euthanasie, de la sédation profonde et définitive, et puis aussi du suicide assisté un petit peu, et de la posture des médecins qui se retrouvent dans situation d'illégalité quand ils essayent de faire en sorte d'accéder à la demande de certains de leurs patients, d'accélérer le processus quoi, de fin de vie. Et toutes ces, toute cette gravitation autour de l'illégalité, elle nous a pas mal intéressés. Et je vous écoutais et je me posais un peu la question de l'archéologie de ce spectacle, de comment est-ce que Papillon Noir a poussé pour exister. Et en fait, c'est juste à côté de moi se trouve un petit peu la réponse. J'avais envie d'essayer d'expliquer la mort à mon fils qui, au moment où le spectacle a été créé, avait 4 ans. Je me disais, waouh, comment je vais faire pour lui parler de ça ? Et si je créais un objet spectaculaire pour pouvoir lui léguer quelque chose de mes pensées là-dessus. Sauf que il avait 4 ans et j'ai complètement raté parce que le spectacle est déconseillé au moins de 12 ans. Zut. Mais comme il grandit, en fait le spectacle aussi vieillit avec lui et puis bientôt il va avoir l'âge limite, donc c'est bon, le contrat sera rempli à un moment. Mais l'enjeu c'était de parler justement d'une façon simple de tout ça, de ce grand mystère aux plus petits, aux plus jeunes. Et au plus jeune en moi aussi, je me suis un peu adressée à moi en tant qu'enfant sur ces questions-là.
Merci.
Non, mais c'était pour revenir à ce dont on parlait avant par rapport au tabou. J'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui est tabou à la fois entre nous, dans le milieu du spectacle, de façon plus précise, parce que j'ai l'impression qu'on... En fait, ça amène une émotion, des émotions fortes et des émotions de tristesse en particulier. Et qu'on n'est pas du tout
à l'aise
avec ça. Mmh. Et que là, je me disais à un moment, j'avais envie d'un peu de pleurer. J'ai cru que peut-être qu'il y en a une qui allait pleurer, comme si ça allait créer un peu de gêne quand quelqu'un se mettait à pleurer, alors qu'en fait, c'est juste une émotion qui existe et qui nous traverse et qui est juste. Enfin, en fait, c'est juste OK. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que ça parle aussi pas mal de ça, quoi.
De la question de se montrer vulnérable et de faire circuler de la vulnérabilité ou des émotions. Peut-être un tabou encore plus fort, ce serait les larmes. Un spectacle sur les larmes. peut-être qu'il y a de ça, de se dire, en fait, c'est OK, c'est là, on est traversé par une émotion. Ça crée quelque chose dans un collectif. Et donc, comment on réagit à ça ? Et est-ce que c'est grave ? Et est-ce qu'on peut traverser ça ensemble, tranquillement ?
Mais j'ai l'impression que le tabou, il est aussi plus largement sur vraiment la question de l'intime. Parce qu'en fait, là, je pensais, je ne sais pas, quand Colline parlait, par exemple, le spectacle qu'on tourne actuellement avec ma compagnie, c'est sur l'effondrement. Enfin, bon, ce n'est pas sur ça, mais ça parle de ça. Et en fait, c'est horrible. Enfin, on parle de la fin du monde, quoi. Enfin, on part du principe que le monde est fini et que d'ici 8 ans, de toute façon, il ne se passe plus. Enfin, voilà, c'est tellement la cata. Et pourtant, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Alors qu'en fait, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper angoissés par ça. Mais il y a quelque chose où, comme on parle du global, c'est beaucoup plus facile d'assumer qu'on va être décalé par rapport à ça. En plus, on a un point de vue assez décalé sur la question. Mais alors que... de venir parler de ton intimité, en fait, finalement, quel que soit le sujet, on parle des menstruations, on parle de la mort, peut-être le seul sujet où on est autorisé, c'est l'amour, mais en fait, t'en parles quand même qu'à vraiment un endroit de l'amour romantique où t'as vraiment le droit d'en parler, mais sinon, il y a quelque chose qui est difficilement... Alors, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié aussi avec le monde occidental et la manière dont on a séparé le cerveau, le corps, les émotions et tout, mais c'est vraiment un vrai sujet. Et comme tu dis, le fait de se laisser être perméable et transparent sur ses émotions en public et en société, en fait, c'est énorme. Et c'est très, très dur de... Et moi, je le vis quand on organise des cafés mortels dans le cadre de notre travail. À chaque fois, je me redis à moi-même, en fait, là, je suis là en tant que personne endeuillée. Et du coup, c'est pas grave si je pleure en face des gens, même si c'est moi qui organise. Et vraiment, je suis obligée de me le répéter comme un mantra pour pas, moi, me distancier de ça, quoi. Donc, ouais, c'est un gros, gros travail pour la société en général.
Ouais. Et du coup, ça, pour continuer là-dessus, ça me fait penser que les endroits où on parle, où on se saisit de ces questions-là, c'est aussi beaucoup les endroits militants, les endroits où on politise les choses, et notamment les endroits féministes. Et on a été, enfin, nous, on est un peu la troisième vague de génération féministe où on a été biberonnés un peu à l'intime et politique. Ouais. Et donc, en fait, on va sortir les choses intimes parce que ça fait du collectif et c'est politique de les traiter. Là, ce qu'on est en train de faire, on pourrait poser, c'est le gros mot politique, mais oui, parce qu'en fait, on sort quelque chose et en faisant ces spectacles, c'est ce que vous faites aussi. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits où c'est assez OK d'aborder tout ça, que ce soit les questions de corps, les questions de sexualité, les questions de menstruation ou les questions de mort, parce qu'on a l'habitude de ça et qu'il y a d'autres endroits où ces questions sont plus taboues. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je ressens ça, j'ai l'impression que ça dépend dans quel milieu on navigue, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, ouais, avant qu'on clôt? Oui.
Alors moi, ce n'est pas forcément une question, mais une réflexion par rapport au deuil dont on parle et de ce mot qui est très, on va dire, global, qu'on est tous concernés, puisque de toute façon, la mort, on est tous concernés, puisqu'on est tous pour mourir un jour. Donc forcément, on est concernés de près ou de loin. Mais moi, le mot deuil, ce qu'on a parlé ce soir, ne traite que d'un sujet. Et pour moi, il est plus large que ça. Mmh. C'est-à-dire que le deuil, ce n'est pas que la perte d'un être cher, bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi, ça peut être aussi un deuil qu'on peut avoir soi-même parce qu'on a un handicap, parce qu'on a une maladie et parce qu'on a des pertes régulières et que c'est aussi des formes de deuil et que ce travail-là est aussi difficile parce qu'on n'en parle pas, parce que voilà, c'est compliqué, mais voilà, ça peut être la perte de la vue, ça peut être la perte de la sensibilité, de la marche, de plein de choses. Et l'handicap et les maladies invalidantes, pour moi, ce sont des deuils au quotidien.
Et merci de le rappeler, enfin, c'est très juste ce que tu dis aussi. Récemment, j'ai entendu quelqu'un utiliser facilement le mot « deuiller ». Ouais, là, je dois deuiller telle relation, je dois deuiller telle faculté que j'avais et que j'ai plus. Et du coup, je l'utilise plus aussi, moi, de me dire, ah oui, là, je suis en train de deuiller, voilà, ce que vous disiez aussi, d'être partie d'une ville, par exemple, une rupture amoureuse, enfin, plein de sortes de deuils, finalement, qui ne sont pas la perte d'un être. C'est vrai que là, on a pris sur ce prisme-là, parce qu'on a parlé de la mort, mais tu as raison, c'est beaucoup c'est plus...
Aussi la mort est aussi une partie de soi-même, en fait, peut être une partie de soi-même. Et c'est vrai que le deuil... Comme c'est, comme on dit, un sujet tabou. Pourquoi c'est un sujet tabou? Puisque ça fait partie, malheureusement, du quotidien. Mais justement, du fait que ça soit un sujet tabou, quand on peut être concerné à un moment donné, soi-même physiquement ou autrement, le deuil, je trouve, il est d'autant plus difficile à accepter, à aborder, à travailler, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas, quoi. Mmh. Et pourquoi on n'en parle pas?
Finalement, question.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur il y a des endroits où on en parle, des endroits où on n'en parle pas. Moi, j'entends parler de la mort depuis que je suis toute petite parce que mon père est médecin et qu'il y est confronté tout le temps. Je pense qu'il y a. Enfin, on parlait tout à l'heure des personnes qui travaillent dans les pompes funèbres. Enfin, en fait, je pense que c'est pas. C'est indéfinissable les endroits où on en parle et les endroits où on n'en parle pas. Ça dépend complètement des familles, ça dépend complètement de... Oui, voilà, c'est... Voilà, je voulais juste nuancer ce truc-là, même si je suis d'accord que oui, dans certains milieux militants, on parle beaucoup plus facilement de l'intime. Après, il y a des familles dans lesquelles on parle beaucoup plus facilement de l'intime que d'autres. Mmh. Et le rapport à la mort, oui, ben, selon les métiers des personnes proches, ça peut être ça aussi. Enfin, bon, voilà.
Oui, puis là, par exemple, je suis en train de faire une émission de radio dans le cadre du Printemps Mortel avec les ados d'Active Royan. Et on a fait un micro-trottoir mercredi après-midi au People, au terrain de pétanque, sur la mort. Mais comme ça, quoi. De but en blanc. Eux, ils étaient hyper motivés. Et on est rentré vraiment par... est-ce que vous avez eu des animaux de compagnie? Est-ce que vous avez vécu des morts d'animaux de compagnie? Ça a été notre porte d'entrée. Et en fait, ils se sont mis à parler de la mort, des rituels autour de chiens, de chats, d'animaux, avec des vieilles personnes, avec des gens qui buvaient des coups aux People. Et j'ai eu vent. Après, une fois qu'on était partis, quelqu'un que je connaissais était à la table à côté, et en fait, les personnes ont continué à parler de la mort. Et en fait, pour ces ados de 14 ans, d'entendre des vieux messieurs dire qu'ils ont été effondrés à la mort de leur chien, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme rituel, et comment ça les a habités, ça a été hyper marquant. Et en fait, je me suis dit, ah bah oui, comme ça, en une demi-heure, on avait créé le truc hyper simplement. Et voilà, donc du coup, je me dis, bon, bah voilà, on peut aussi sortir, se poser ce genre de questions. Alors, il y a toujours le prétexte de la radio, par exemple, qui permet d'aller voir les gens. Effectivement, ça aurait été plus louche si on était juste débarqué comme ça au terrain de pétanque. Bon, voilà. Mais donc, prenez un micro et on peut aller poser des questions aux gens.
Et moi, je voulais rebondir aussi. Pour moi, c'est très personnel. Enfin, en fait, à quel moment je m'autorise, j'ose en parler, amener le sujet, risquer de me prendre une porte parce que, en fait, telle ou telle personne n'a pas envie d'en parler. Mais que ce soit le sujet de la mort, du deuil ou même de l'intime, moi, je vois que, au fur et à mesure des années, je l'amène de plus en plus dans mes amitiés. Et du coup, moi, je sens pas un manque de ça. Et justement, je me suis formée aussi pour animer des cafés mortels, pour aussi être au cœur de ces moments où on partage vraiment, pour moi, des beaux moments d'humanité. Et c'est comment soi-même, si on a soif de ça, bah juste on s'autorise, on s'offre des possibles, des espaces comme là on est par exemple ce soir. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Et le territoire quand même du Royan-Vercors est sacrément réceptif. Donc c'est chouette aussi de profiter de cette rampe de lancement pour oser.
Continuons donc à en parler. Oui.
J'ai juste une idée qui m'est venue en t'écoutant, c'est que j'ai l'impression effectivement qu'on a un peu un boulevard avec cette thématique, parce qu'elle crée du lien, elle ramène du pouvoir auprès des gens, elle crée du collectif, et en même temps c'est pas enfermable dans le wokisme. Donc on a de la marge, quoi.
Pour une fois, on sera pas taxé de wok. Est-ce qu'il y a un mot de la fin du côté de Mbalou et Claire pour terminer, pour clôturer cette troisième partie du plateau ?
Moi, je suis très contente du coup dans le processus de création, de justement, comme on organise des cafés mortels à chaque fois, de me rendre compte que c'est vraiment un public qui vient à ces cafés qui est autre que le public qui vient au spectacle. Et en fait, il y a ça. En fait, c'est vraiment un sujet. On est toutes touchées à un endroit différent. Et donc, ça permet une rencontre vraiment assez horizontale, comme c'est très, très difficile d'en créer, parce qu'on est tous là en train de se dire, oui, on veut faire des projets qui réunissent, intergénérationnels, blablabla. Bon, en fait, c'est galère. En mixité, c'est galère. Dans les cafés mortels, c'est, bien sûr, il y a des biais, parce qu'en fonction de qui organise, où est-ce que c'est, etc., ça sélectionne une partie de la population. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression que n'importe qui peut se pointer et avoir... une place, en fait. Il y a très peu de codes, et donc ça, c'est voilà, c'est à côté de la création artistique. Je sais pas sûr que le spectacle concret aura cette force là de rassembler à ce point là mais en tout cas, c'est vraiment très précieux comme espace, quoi. Voilà.
Si, peut-être donner un petit tips. Non, je sais que moi, dans ma famille, c'est pas toujours simple de parler de l'intime, et en fait, le fait déjà d'avoir ce spectacle, mais aussi de dire « Ah bah tiens, j'ai lu un livre là-dessus, ah j'ai suivi tel atelier, c'est marrant, on a parlé de ça, nanana et tout », ça a permis des fois d'ouvrir des discussions du coup plus profondes, plus intimes, je sais pas, par exemple avec ma mère, de dire bah, « Qu'est-ce que t'envisages pour ta mort comme cérémonie ou quoi que ce soit ?» Et des gens qui, si on y allait frontal en leur posant directement la question, ça ne marcherait pas du tout. Mais des fois, de l'aborder un peu de manière détournée, en parlant de soi, de ce qu'on a pu lire, voir, entendre, ou de réflexions qu'on a, ça peut permettre des fois d'ouvrir un petit peu la parole.
Eh ben, c'est la fin. On va deuiller la fin de ce plateau Je voulais remercier d'abord Elena et le Centre Social La Paz. Elena qui est double titre, salariée du Centre Social et bénévole à Thanatosphère, qui est partenaire du Printemps Mortel. Parce que moi, je trouve que c'est important de sortir le studio, de venir à la rencontre, de créer des moments comme cela. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc merci beaucoup au Centre Social. Merci à Jean-Claude, bénévole de la radio, pour la technique. Merci à Claire Mbalou d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'être venu. Et le mot de la fin, il sera pour Clara Isée.
Aujourd'hui, tu aurais une année de plus, et moi, peut-être, je serais tout aussi perdue, mais je me réjouirais de ta venue. Aujourd'hui, on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans, et on aurait bien ri pourtant. Aujourd'hui, j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer? Où je ne voudrais plus t'en laisser. Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Aujourd'hui tu aurais quelques cheveux blancs, et moi peut-être le visage moins enfant. On rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements. Tu offrirais ton visage au vent. Oh les cœurs, notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger?